êtes sur Radio Orient. Merci de vous joindre à nous. Il est 17h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, nouvelle passe d'armes verbales entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran n'entend pas céder, réplique à Donald Trump, une posture qui ne fait qu'aggraver la crise économique iranienne, nous dira David Rigoulet-Rose, chercheur attaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Benjamin Netanyahou confirme le rejet de la feuille de route américaine pour Gaza, une décision dictée par le contexte des divergences avec Washington, de pression de l'extrême droite et à l'approche des élections législatives en Israël. Et puis en France, une vingtaine d'associations alertent sur les conséquences suite aux réductions des places d'hébergement d'urgence et coupes budgétaires, des mesures qui menacent leur structure, nous dira le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Bonjour, pas de sortie de crise en vue dans le détroit d'Ormuz. L'Iran affirme qu'il maintiendra le blocage du détroit tant que les États-Unis n'auront pas accepté toutes ses conditions. Il affiche sa détermination et répond à Donald Trump après que le président américain a comparé le conflit à une partie d'échecs en affirmant que les Iraniens sont, eux, des joueurs d'échecs professionnels. Une nouvelle passe d'armes verbale qui illustre la fermeté du bras de fer entre les deux pays. Une stratégie iranienne de pression maximale destinée à provoquer une perturbation énergétique mondiale et à contraindre Washington à revoir sa position. Mais cette posture jusqu'au boutiste ne pourra pas être acceptée par les États-Unis, estime David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Elle risque aussi d'aggraver la crise économique en Iran. On l'écoute.
Ce qui est sûr, c'est que l'Iran veut préempter de toute façon le contrôle du détroit et en réaffirmant le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière, de libre circulation, ce qui en soi est déjà une violation de la convention de Montego Bay. Mais au-delà de cette dimension juridique, d'une tutelle iranienne qui est irrecevable non seulement pour les États-Unis mais pour la communauté internationale, de toute façon, les conditions qui sont formulées ressemblent à un diktat, un ultimatum en fait à Donald Trump qui de toute façon sera irrecevable. Leur pari c'est quoi? C'est de faire un chantage sur l'économie mondiale. Oui, ça a des conséquences, on l'a vu. En termes d'inflation, notamment, en termes de électoraux pour Donald Trump, en termes de stabilité du marché énergétique, mais pas autant qu'il le souhaiterait. Et en plus, justement, comme c'est irrecevable, les Américains ne lèveront pas le blocus, ce qui fait que, en réalité, c'est l'argent qui ne rentre plus pour Téhéran. Et en interne à Téhéran, il y a quelqu'un qui le sait, c'est Massoud Pezeshkian, qui l'a fait savoir au guide suprême. Qui pourtant vient de nommer Moshe Mretzvah, qui est un ultra des gardiens. Donc c'est une fuite en avant, en réalité. Il y a une forme d'ultimatum adressé aux Américains, et qui, pour la première fois, sont dans une position beaucoup plus raisonnée. On a vu les déclarations de Donald Trump. Il disait que, finalement, ils adoptaient un profil bas par rapport aux circonstances, en mentionnant la situation catastrophique en Iran, une inflation à trois chiffres, les difficultés pour payer les fonctionnaires et les services de sécurité, et donc beaucoup moins de déclarations ostentatoires du président Donald Trump, ce qui est sans précédent. Donc un embarras de Donald Trump, mais qui est à relativiser aussi par rapport à l'impasse stratégique qui est autant pour Donald Trump que pour les Iraniens.
David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, interrogé par Inès Gilles. Téhéran a réagi au pacte de défense conclu entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et la Turquie. L'Iran y voit le signe d'un recul de la confiance des pays de la région envers les garanties de sécurité américaines, tout en assurant ne pas considérer cet accord comme dirigé contre lui. Toujours pas de perspective de sortie de crise à Gaza. Israël a officiellement rejeté la feuille de route américaine destinée à mettre fin au conflit, pourtant acceptée par le Hamas. Après avoir multiplié les réserves ces derniers jours, le Premier ministre Benjamin Netanyahou acte désormais son refus du texte sous la pression de ses alliés d'extrême droite à l'approche, Inès Gilles, d'élections législatives qui s'annoncent particulièrement délicates.
Et oui, Nadia, l'avenir de Gaza Gaza est dans l'impasse. Benjamin Netanyahou avait déjà émis des doutes il y a quelques jours, mais c'est aujourd'hui confirmé. Israël rejette le plan américain. Une décision qui sonne comme un camouflet pour Donald Trump. Car ce plan aurait permis de faire avancer la situation à Gaza. Il prévoyait la fin des opérations militaires des deux côtés et le désarmement du Hamas, de pair avec un retrait progressif d'Israël, qui contrôle encore plus de 60% du territoire palestinien. Le texte avait été accepté par le Hamas, vous l'avez dit Nadia, et ce dimanche, le mouvement palestinien avait d'ailleurs demandé à Washington de faire pression sur le premier ministre israélien. Face aux inquiétudes israéliennes, le haut représentant du Conseil de paix pour Gaza, Nikolaï Mladenov, avait assuré la semaine dernière qu'Israël ne se retirerait qu'après un désarmement complet du Hamas, mais cela n'a pas suffi à rallier la partie israélienne. Benjamin Netanyahou est en mauvaise posture dans les sondages pour les élections législatives d'octobre prochain face à Gadi Eisenkot, le leader de l'opposition. Il est donc sous pression de ses alliés d'extrême droite et ceux-ci refusent fermement le plan américain pour Gaza et sont même favorables à une recolonisation de l'enclave palestinienne. Le plan américain est pourtant la seule voie à suivre pour éviter une attaque similaire à celle du 7 octobre, a estimé Nikolaï Mladenov. Les négociations ne sont cependant pas au point mort. Benjamin Netanyahou a fait état de discussions avec les États-Unis sur les objections israéliennes, affirmant que le Hamas doit renoncer à toutes ses armes.
Merci Inès pour tous ces détails. Sur le terrain, la tension persiste. En Cisjordanie, l'armée israélienne a déclaré le village chrétien de Taïbeh, zone militaire fermée pour les non-résidents israéliens, affirmant vouloir empêcher de nouvelles attaques de colons contre les Palestiniens. Cette décision intervient après plusieurs violences dans le secteur. Un récent rapport de l'ONU accuse les autorités israéliennes d'être directement impliquées dans ces attaques, une accusation rejeté par Israël. Un premier groupe de 2500 Kurdes syriens déplacés depuis 2019 a commencé à regagner la région de Ras Al Ain dans le cadre de l'accord conclu entre les autorités kurdes et Damas. À terme, près de 100 000 personnes pourraient rentrer dans cette zone proche de la frontière turque. Le PKK critique le projet de loi turc sur le désarmement de ses combattants qu'il juge incomplet et réclame la libération de son chef historique Abdullah Öcalan. Le texte examiné par les députés prévoit le retour à la vie civile d'une partie des combattants sans instaurer d'amnistie générale. Le sultanat d'Oman a engagé des opérations pour contenir une marée noire provoquée par l'échouement d'un pétrolier près d'une réserve naturelle maritime protégée. Les autorités ont déployé des moyens de surveillance et préparent le transfert de la cargaison afin de limiter les risques pour l'environnement. Un puissant séisme de magnitude de 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie, provoquant des dégâts matériels et des blessés, selon les premières informations des autorités ressenties jusqu'à Bogota, Quito et Panama. Il a conduit à la suspension des opérations dans 6 aéroports colombiens afin de permettre des inspections de sécurité. Aucun bilan définitif n'a encore été communiqué. Le président de l'enclave espagnole de Ceuta propose de placer les migrants arrivés récemment dans un centre de rétention où ils resteraient jusqu'à l'examen de leur expulsion. Cette demande intervient après l'arrivée massive de migrants depuis le Maroc et relance le débat sur la gestion de cette crise migratoire en Espagne. Et puis un record de 230 migrants, dont plus de 20 enfants, a traversé la Manche à bord d'une seule embarcation dans la nuit de dimanche à lundi. C'est ce qu'a fait savoir l'Association française de sauvetage en mer. Les secours français dénoncent une traversée hors norme, illustrant l'intensification des départs malgré les mesures prises par Paris et Londres. Une femme de 80 ans est décédée en tentant de fuir le gigantesque incendie qui ravage le sud de la Colombie-Britannique. Dans l'ouest du Canada, plus de 20 000 personnes ont été évacuées, tandis que le feu toujours hors de contrôle a déjà parcouru plus de 13 000 hectares. Et puis le nouvel incendie qui s'est déclaré ce matin au sud-est d'Athènes a été circonscrit après plusieurs heures de lutte mobilisant près de 200 pompiers d'importants moyens aériens. La Grèce reste toutefois en alerte maximale en raison d'un risque toujours très élevé d'incendie. Météo France étend la vigilance orange canicule à 43 départements à partir de mardi avec un nouvel épisode de forte chaleur qui gagne l'ouest du pays. Les températures continueront de grimper dans de nombreuses régions avec un pic de chaleur attendu en milieu de semaine. Je vous le disais en titre, une vingtaine d'associations d'Île-de-France alertent le gouvernement sur la réduction des places d'hébergement d'urgence et les coupes budgétaires qui menacent leur structure. Elles ont adressé fin juillet une lettre au ministre du Logement, Vincent Jeanbrun. Parmi elles, Emmaüs Solidarité, son directeur général Lotfi Ouanzar, revient sur cette alerte au micro de Radio Orient.
Le collectif des associations, nous demandons donc au ministre du Logement d'abord de revenir sur les baisses annoncées. Ce sont des baisses qui concernent la veille sociale, mais surtout l'hébergement d'urgence à Paris. Donc des coupes qui peuvent aller parfois jusqu'à 10% des budgets. C'est aussi un courrier, un appel pour l'alerter sur la situation actuelle, qui est très connue d'ailleurs, hein, qui n'est pas une nouveauté. Puisque nous avons de plus en plus de personnes qui se présentent à nos permanences, qui nous sollicitent et qui ne trouvent pas de solution. Et donc, c'est un peu des injonctions paradoxales. Comment faire plus avec moins ? Et c'est l'objet de notre courrier, de l'alerter, de lui demander de revenir sur ses coupes budgétaires et qu'on puisse travailler dans des conditions adaptées à la situation qui est quand même, il faut le dire, catastrophique. Malheureusement, donc, il y a un décalage entre les besoins sociaux qui ont explosé et l'offre qui, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, cette offre là reste insuffisante et ne répond pas aux besoins. Donc si le gouvernement, si le Premier ministre, si le ministre du Logement ne décide pas de prendre le sujet à bras-le-corps, il va y avoir encore davantage de décès. Il va y avoir encore de mobilisation. D'ailleurs, la mobilisation, elle gagne tout le pays. Hein. Elle n'est pas uniquement à Paris. Il y a des associations partout, dans toutes les villes, qui commencent à alerter, à s'organiser, à alerter sur la situation pour dire qu'il faut stopper ces coupes et que le sujet des personnes sans domicile, il faut qu'il devienne une priorité nationale.
Des propos recueillis par Inès Gilles, Lotfi Ouanzar, directeur général Emmaüs Solidarité, est l'invité de Grand Angle ce lundi et c'est après le flash de 18h. Et puis pour les amateurs d'éclipses solaires, sachez que le phénomène sera observé le 12 août sur une bonne partie de la planète. Elle sera totale et visible dans une partie de l'Espagne, tandis qu'en France, au Maroc et en Algérie, elle sera observable sous forme partielle. Les spécialistes rappellent qu'il faudra impérativement utiliser des lunettes homologuées pour observer le phénomène sans risque pour la vue. C'est la fin de ce bulletin complet d'informations. Merci à Mohamed Yamout pour la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 17h30 avec Mazen Hamoud. À tout à l'heure pour le point de l'actualité de 18h.